Les matins de France Culture. Florian Delorme.
Hier, le nouveau président irakien, Bahram Saleh, était en visite à Paris. Il s'est entretenu avec Emmanuel Macron. Ils ont évoqué ensemble le sort des combattants français détenus à Bagdad.
Très éléments de Daesh ont été arrêtés dans le cadre d'opérations militaires et ont été remis aux autorités irakiennes. Ils sont accusés d'avoir commis des crimes contre des Irakiens, des installations irakiennes en Irak. Ils seront jugés selon la loi irakienne. Et c'est ce que prévoit le droit international. Et c'est dans ce cadre que nous agissons.
Voilà, extrait de la conférence de presse, c'était hier, une visite qui intervient alors que la défaite militaire de Daesh est désormais imminente puisque les derniers djihadistes sont retranchés dans une petite poche de l'est de la Syrie. Alors, quel a été le contenu des échanges entre les deux chefs d'État? Comment envisage-t-on la prise en charge des combattants français, plus généralement des combattants non irakiens? Leur exfiltration du Levant permettra-t-elle à la région de se soustraire à la réémergence d'une nouvelle entité djihadiste? Vous êtes avec nous ce matin, Gilles Kepel. D'abord, sur cette annonce, hier, on nous a dit que 13 djihadistes avaient été remis aux autorités irakiennes. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont être jugés en Irak. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Un procès juste de la part des autorités irakiennes?
Ça, je ne peux pas le savoir à l'avance, bien évidemment. Mais l'Irak est un pays qui est reconnu par la France, son système juridique également. Alors, ce qui se passe généralement dans ce genre de choses, c'est que la peine de mort n'étant pas applicable en France, les autorités françaises veillent à ce que celle-ci ne soit pas appliquée pour les Français qui seraient jugés en Irak.
Donc ça veut dire que les ressortissants français qui seront jugés en Irak ne pourront pas être exécutés? Ne le seront pas.
Enfin, en principe, ça, ce sont les accords entre les diplomaties des deux pays, si vous voulez, ça pour des raisons qui tiennent aussi à l'opinion publique. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je ne peux pas préjuger de ce qui va se produire, mais on voit bien que actuellement, il va y avoir un très net réchauffement des relations franco-irakiennes. Là, vous savez, l'Irak a toujours été le partenaire clé de la France dans la région, puisque la péninsule arabique, finalement, quoi qu'on en dise, est restée la chasse gardée des Américains, et même à l'époque où Jacques Chirac, justement, avait des relations excellentes avec la monarchie saoudienne, les Émirats et autres, finalement, ce sont toujours les Américains qui remportaient une grande partie des contrats et qui étaient ceux qui servaient d'assurance à ces régimes, alors que...
Et est-ce qu'avec ce nouveau président, on peut attendre un nouveau rapprochement encore plus fort entre Paris et Bagdad?
Alors, Bahram Saleh, qui est en visite à Paris en ce moment, et qui sera tout à l'heure au MEDEF d'ailleurs, est un Kurde d'Irak, de la région de Souleymané, où il était d'ailleurs un universitaire, il était président de cette université, où j'ai d'ailleurs enseigné parfois. Et ce n'est pas lui qui détient la réalité du pouvoir, si vous voulez. Le président irakien est un peu comme un président de la 4e République en France, vous voyez. La réalité du pouvoir est détenue par le Premier ministre, qui est chiite par la Constitution, et qui est quelqu'un qui est bien connu en France, puisqu'il a passé 20 ans d'exil à Clermont-Ferrand, Monsieur Abdel Mahdi, est d'ailleurs surnommé l'Auvergnat, et l'accent qu'il aurait en France. Oui, c'est ça, avec un petit accent de Clermont. Et c'est lui qui est indéniablement l'homme de la région. L'Irak est un pays intéressant puisque il y a une assez grande influence de l'Iran dans ce pays, du fait de la présence d'un certain nombre de partis politiques, de milices et autres qui sont influencés par Téhéran. Mais il y a aussi une présence américaine qui n'est pas négligeable. Et donc, lorsque ces deux États sont en conflit partout, l'Irak est un lieu où, d'une certaine manière, ils sont contraints de se parler pour faire fonctionner le système. En plus, l'Irak a vu sa production pétrolière augmenter significativement cette année, aussi bien dans la zone fédérale que dans le Kurdistan irakien autonome. Et donc il y a là, l'Irak est totalement à reconstruire. J'étais en avril dernier, je raconte ma visite à Mossoul notamment et à Kerbela et à Erbil dans mon livre Sortir du chaos. Et il y a quand même énormément de choses à reconstruire. La situation de l'entente entre les communautés est quand même un énorme chantier. À Mossoul, il y a un très fort ressentiment toujours contre Bagdad. Mossoul est sunnite. Mossoul a été totalement détruite par la coalition après avoir été la capitale économique, si j'ose dire, de l'État islamique de Daesh.
La question de la reconstruction est évidemment en jeu. Et d'ailleurs, le nouveau président est passé aussi à l'UNESCO pour évoquer cette question-là. Voilà. Votre dernier ouvrage, Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, qui était paru chez Gallimard en octobre dernier. La grande question que pose la fin imminente de Daesh, Gilles Kepel, c'est la question des revenants. Que va-t-on en faire? Comment est-ce qu'on va les prendre en charge? Et comment la justice va pouvoir traiter ces cas? On va en parler très largement aujourd'hui. Évidemment, c'est un problème fondamental pour la France, mais pour tous les pays. Ce que souhaite la France, c'est que finalement les autorités irakiennes en prennent un maximum à sa charge. Jusqu'où Bagdad, aujourd'hui, est prêt à prendre en charge cette question des revenants?
Mais c'est un problème territorial, d'abord. C'est-à-dire que ceux qui ont été incriminés parce qu'ils ont commis des actes qui sont justiciables sur le territoire irakien peuvent être pris en charge par les autorités irakiennes et par la justice irakienne.
Mais ça sera le désir des autorités de Bagdad?
Visiblement, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure les propos de monsieur Bahram Saleh en arabe, c'était ce qu'il disait. Je pense que pour eux, c'est aussi un élément très important. En revanche, quand cela a été commis sur le territoire qui est le territoire syrien, même si pour l'instant il est contrôlé par l'entité kurde du YPG, qui, contrairement à l'Irak, n'est pas un État reconnu par la communauté internationale, là, les Irakiens n'ont aucune raison
de les garder. Ils vont les récupérer et puis ensuite, a priori, on va organiser leur rapatriement.
Non, pas forcément vers l'Irak. C'est-à-dire ceux qui, là, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont prisonniers en Irak ou qui sont incriminés pour des crimes supposés commis en Irak. La justice ensuite en décidera. Donc ceux-là peuvent être traités par la justice irakienne. La France reconnaît l'Irak. Et ça, c'est un cas de figure qui existe habituellement. Là où on a une situation inédite, c'est l'entité qui est au nord-est de la Syrie, donc au nord de l'Euphrate et au sud de la frontière turque, qui est dirigée aujourd'hui par les Kurdes du YPG, et qui n'est pas un État reconnu par la communauté internationale, qui n'a pas d'administration de la justice ni quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont des prisonniers de Daesh, dont un certain nombre de Français, d'hommes, de femmes, d'enfants, de combattants et autres, dont justement on ne sait pas quoi faire juridiquement parce que le YPG n'a pas de système judiciaire pour les juger, qu'ils soient reconnus. Donc, est-ce qu'ils restent là-bas ou bien est-ce qu'ils vont être transférés en Europe pour y être jugés? Et là, vous savez qu'il y a un débat énorme avec, du reste, des positions gouvernementales qui fluctuent assez régulièrement, puisque l'une des options, c'est qu'ils soient ramenés en France et, comme tous les gens qui reviennent de Syrie, généralement, sont judiciarisés immédiatement. Autrefois, on ne le faisait pas pour les femmes parce qu'on jugeait que c'était des femmes de combattants et des victimes. Aujourd'hui, la doctrine a changé, elles sont également judiciarisées. Le problème se pose aussi pour les enfants, des enfants parfois tout petits pour la plupart d'entre eux. Que faire d'eux? Est-ce qu'ils vont être placés en foyer? Est-ce qu'on peut les remettre à la charge de leurs grands-parents, par exemple? C'est souvent le cas, par exemple, pour des convertis dont les parents, les grands-parents des enfants n'ont pas du tout partagé le délire de ceux qui sont partis. Donc ça, ce sont des options, mais il y a bien sûr une opposition assez forte dans l'opinion publique à ce sujet, puisque il y a d'abord la question de l'incarcération. Est-ce que l'administration pénitentiaire peut gérer ce phénomène? D'ores et déjà, la détention des djihadistes a posé d'énormes difficultés, puisque vous avez eu d'un côté les actes de prosélytisme massifs auprès des détenus de droit commun qui ont posé des problèmes majeurs. Ensuite, on a monté des unités dédiées pour les séparer des autres et mieux les surveiller, mais ils ont créé à partir de ce moment-là des contre-pouvoirs dans le système pénitentiaire. Ce qui demande donc aujourd'hui un placement dans des de manière séparée, dans des cellules avec des centres de détention qui coûtent extrêmement cher. Et avec en plus...
On va revenir évidemment sur ces difficultés purement judiciaires que ça pose aussi sur le système carcéral en seconde partie avec Mathieu Delahousse. Mais sur le principe même, est-ce que vous êtes favorable à ce que la France accueille ses combattants? Parce que au fond, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que la France les récupère plutôt qu'il les laisse dans ces camps précisément gérés par les FDS, qui pourraient les laisser partir, qui pourraient les laisser finalement s'échapper et constituer au fond un risque plus grand pour la France. Au fond, est-ce que notre intérêt à nous, du point de vue de notre sécurité, c'est pas précisément de les avoir chez nous?
En fait, tout le monde voudrait qu'ils ne soient plus là, si vous voulez. Du reste, Madame Parly a plusieurs fois tenu des propos assez guerriers les concernant. Mais toutes les solutions sont mauvaises, d'une certaine manière. Puisque le fait, pour l'instant, chacun essaie de gagner du temps. C'est-à-dire que il y a quelque temps une annonce qu'ils allaient rentrer de manière imminente, que les Américains allaient les évacuer vers leur base en Allemagne et qu'ensuite il y aurait une espèce de dispatching. Ce qui était une manière aussi de préparer au retrait des Américains. Je crois que actuellement les combattants kurdes du YPG en Syrie finalement ne sont pas très pressés parce que tant que ces combattants étrangers sont là, du coup, les États-Unis sont obligés de rester pour protéger le YPG, si vous voulez. Et ça leur permet de gagner du temps face à l'offensive turque que les Turcs veulent mener à l'aide de leurs supplétifs syriens arabes pour chasser le YPG turc.
C'est un levier d'action. Mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que vous pensez qu'il est plus pertinent de recueillir ces combattants plutôt que de les laisser à l'extérieur? Voilà, c'est ça ma question.
Oui, en termes de droit.
En termes de risque.
C'est différent.
Ah ben, je vous parle du risque pour l'instant.
En termes de droit, il est évident que il faudrait, dans un monde idéal, qu'ils ils ont commis des crimes, ils sont jugés ici. Quoique les crimes, éventuellement pour lesquels ils seraient condamnés, ont été commis à l'extérieur de la France. Donc ça pose un problème de territorialité aussi, qui n'est pas simple en termes juridiques. En termes d'efficacité, celle que vous posez, évidemment, on préfère que des gens soient incarcérés quand on considère qu'ils sont dangereux, plutôt qu'ils soient laissés dans la nature, puisqu'ils pourraient reconstituer des réseaux un peu comme à l'époque de l'État islamique, où entre 2015 et 2017, l'essentiel des attentats commis en France, les condamnations à mort, mais aussi l'attentat du Bataclan, l'assassinat des policiers à Magnanville, du prêtre Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, tout cela a été coordonné depuis la zone syro-irakienne qui était à l'époque contrôlée par l'État islamique. Aujourd'hui, ils n'ont plus bien sûr les mêmes moyens, mais imaginez qu'ils soient libérés, qu'il y a un certain nombre de personnages importants de la mouvance djihadiste française qui sont là-bas. Imaginez qu'ils soient libérés d'une manière ou d'une autre, qu'ils arrivent à reconstituer un noyau quelque part. Ils présentent un niveau de dangerosité très supérieur à ce qu'il y aurait s'ils étaient incarcérés. Le problème, c'est quelles seront les peines auxquelles ils vont être condamnés, parce que vous avez par exemple les frères Klein, dont on a annoncé la mort récemment. Ouais. Fabien avait déjà été arrêté, condamné en France. Il a servi son temps avec ses réductions de peine. Et la prison a été un lieu où il a renforcé sa foi, sa croyance et son idéologie, fait énormément de prosélytisme. Puis ensuite, on l'a relâché, il est parti dans la nature. Donc toute la question, c'est de savoir, et je crois que c'est un problème qui se pose pour un certain nombre de citoyens et de contribuables que nous sommes, c'est-à-dire, est-ce que des gens comme ça vont être condamnés? La justice se prononcera ex aequo et bono, hein. Et puis ensuite on les remet dans la nature et c'est ça l'inquiétude d'un certain nombre de gens qui font qu'il y a aujourd'hui ces pressions si fortes et qui fait que le gouvernement est très hésitant, comme vous l'avez remarqué, puisqu'on n'a pas eu la même position énoncée par tous les ministres depuis disons un mois que ça dure.
On reviendra évidemment sur ces questions après 8h20, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une situation où au fond on externalise la prise en charge de ces combattants? On a bien, au fond, externalisé la question de la gestion des migrants en passant un accord avec la Turquie. Alors évidemment, ça...
Oui, mais avec qui?
Contre argent comptant. Mais justement, est-ce qu'il y aurait des pays qui seraient disposés éventuellement à s'occuper de cette judiciarisation de ces combattants? La Tunisie, le Maroc, que sais-je. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est totalement inenvisageable?
En Afrique du Nord, ça me semble extrêmement difficile. J'étais en Tunisie la semaine dernière et Et on a parlé, j'ai eu l'occasion de parler de ces questions justement avec le président belgique Aït Sepsi. Lui me disait qu'il y en avait 5 qui étaient rentrés pour l'instant, des Tunisiens. Ils les ont mis dans des endroits séparés, mais ils n'ont pas du tout les moyens, ni financiers, ni autres, de gérer
donc
ce genre de choses.
Donc c'est pas sur la table.
Et puis, les pays d'Afrique du Nord, enfin, en l'occurrence, il s'agirait de la Tunisie et du Maroc. L'Algérie a ses propres problèmes, comme vous le savez en ce moment, ne sont pas désireux d'avoir ce problème supplémentaire et surtout d'apparaître aux yeux de leur population comme des sous-traitants de la justice française.
On écarte cette hypothèse. Ça fait des mois que la coalition mène des opérations au Levant. L'un des objectifs, c'était d'éliminer justement des combattants et d'éviter que se pose cette question du retour qu'on évoque ce matin. Il y a eu beaucoup d'opérations qu'on appelait HOMO pour homicide, qui sont finalement des opérations, des exécutions extrajudiciaires, ni plus ni moins. Est-ce que le fait qu'il reste à nouveau là aujourd'hui des combattants, c'est le signe qu'au fond, c'est un échec d'une certaine manière?
Exécution extrajudiciaire, oui, enfin, c'est la guerre, hein. Donc c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que on cible des individus qui sont désignés comme des ennemis. Alors après, on peut dire que la guerre n'est pas légitime, éventuellement, mais ce sont pas vraiment des exécutions extrajudiciaires.
C'est comme ça qu'on appelle ça, ça que les militaires appellent ça, opération HOMO.
Oui, les opérations HOMO.
Homicide.
Oui, mais là, ça n'est pas judiciaire, si vous voulez. C'est militaire.
C'est extrajudiciaire.
Voilà, c'est militaire, tout à fait. Je dis pas ça pour le défendre ou ne pas les défendre, mais elles n'ont réussi que dans un certain nombre de cas. Qui plus est, à l'intérieur de Daesh, vous avez eu un grand nombre de conflits à la fin, c'est-à-dire que la situation était difficile, plus la paranoïa gagnait les rangs, plus les uns et les autres étaient, par exemple Thomas Barnoin, en tant qu'on sache, qui est l'un des grands idéologues de Daesh, a fui parce qu'il était menacé d'être exécuté, ce qui n'enlève rien à ses convictions par ailleurs.
On reprend notre discussion chute de l'État islamique. Que faire de ces combattants? C'est la question qu'on se pose. Gilles Kepel est avec nous, professeur à Normalsup et auteur de Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, qui était paru chez Gallimard. Nous retrouve Mathieu Delahousse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, grand reporter pour l'Obs et un spécialiste des questions judiciaires. Et vous signez, vous, Les Chambres des coupables, sous-titré La justice face aux djihadistes français, qui est paru chez Fayard. Votre récit est une plongée dans le grand procès du djihadisme à la française, mais celui qu'on ne voit pas forcément, parce que vous avez volontairement choisi des affaires qui n'étaient pas ou très peu médiatisées. Pourquoi ce choix? Il vous semblait que les procès surmédiatisés, on parlait tout à l'heure de celui de Mehdine Mouche qui se déroule en ce moment-là, peut-être nous font passer à côté d'une autre réalité judiciaire?
Oui, parce que les grands procès du djihadisme vont arriver. Ils ont effectivement commencé en Belgique et vont se terminer au tout début du mois de mars pour Mehdine Mouche. En France, il y aura les grands procès de Charlie Hebdo et du 13 novembre. Mais ce que je voulais raconter, c'est cette réalité judiciaire souterraine qui est très frappante, parce qu'on voit qu'il y a un défi immense, une réalité protéiforme et une sorte d'effroi qui nous gagne pour ce qu'on appelle les petits poissons du djihadisme, qui est un terme, moi, que je récuse dans la mesure où tous ces individus qui présentent des profils très différents ont un point commun, c'est leur dangerosité réelle. Et par ailleurs, ils nous montrent, à nous, dans notre démocratie, qu'on a commencé le grand procès du djihadisme. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, on n'arrivera pas à faire un procès de Nuremberg face au djihadisme français. Mais on a commencé, petite touche par petite touche, à juger ces Français qui ont décidé, dans les années 2014-2015, de partir vers l'État islamique, qui ont décidé de combattre la France, qui ont décidé de mettre en avant autre chose que tous les fondements qui les avaient amenés ici en termes d'éducation, de justice et du reste. Et donc, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ces petits poissons, si l'on peut dire encore une fois, allaient devenir des ennemis de la France. Il y a un autre point commun qui est extrêmement troublant et qui provoque un autre effroi, c'est que tous ceux qui sont passés à l'action sur les attentats qu'on a vus récemment sur le sol français, que ce soit encore une fois à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Paris, à Magnanville, étaient des petits délinquants du djihadisme, des gens qu'on a eu du mal à détecter auparavant et qui sont devenus grands. Il y a dans le djihadisme français des carrières flash, des gens qui sont montés en quelques mois ou en quelques années à des grades très importants.
Mathieu Delahousse, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour demander à ce que la France n'accueille pas les combattants français partis au Levant pour rejoindre les rangs de Daesh. Pour vous, non seulement il faut les récupérer, mais ce serait une erreur de ne pas assumer ce travail de justice.
En réalité, il y a l'histoire parle, c'est-à-dire qu'il faut tirer les enseignements de ce qui s'est déroulé ces dernières années. Ces jeunes gens, quand on les a laissés partir dans la nature, ils se sont systématiquement retournés contre la France. Alors, pas forcément en commettant des attentats, mais souvent en développant sur place leur idéologie et leur volonté de combattre. Il y a un exemple qu'on peut citer qui est celui de Peter Sherif, qui est qualifié de mentor des frères Kouachi et qui sera sans doute cité comme témoin au procès de Charlie Hebdo. Cet homme était dans la galaxie des buts de Chaumont quand il est parti vers le Levant et la zone irako-syrienne, effectivement. On l'a laissé, entre guillemets, faire son chemin. Il y a des scènes assez étonnantes dont il faut se souvenir dans ce débat pour bien le poser, c'est qu'il avait par exemple réussi à s'évader en compagnie de 125 autres islamistes d'une prison irakienne. Aujourd'hui, c'est un danger que la France, ses services de renseignement, sa justice et sa sécurité nationale plus généralement ne peuvent pas prendre. Ce sont des gens qu'il faut suivre, qu'il faut pister, qu'il faut incarcérer et que par ailleurs il faut juger, pas seulement pour le slogan « la justice et pas seulement la guerre », mais parce que la justice permet de comprendre.
Est-ce qu'il faut une justice particulière, spécifique, ad hoc? Est-ce qu'il faut une judiciarisation pas comme les autres? Est-ce que vraiment ce sont des justiciables comme les autres, ces combattants qui nous reviennent?
Alors très clairement, ce ne sont pas des justiciables comme les autres. Simplement, moi je termine dans mon livre « La chambre des coupables » cette idée d'un Nuremberg du djihadisme, en se disant finalement pourquoi tous les pays qui sont confrontés à ce phénomène, que sont la France, la Belgique, mais aussi l'Allemagne et l'Angleterre, puisqu'on les oublie beaucoup plus souvent, ne réuniraient pas leurs forces, leurs idéaux judiciaires pour en quelque sorte se poser pour faire un grand procès du djihadisme. La difficulté, c'est qu'elle ne pourrait pas finalement s'appliquer de façon aussi facile pour des raisons quasiment pratiques. On le voit aujourd'hui au procès des mouches à Bruxelles, on le voit sur les procès que je décris dans le livre. Ce sont des procès qu'il faut faire pied à pied face à des djihadistes qui sont tous quand même des champions de la fake news, qui sont tous des champions de la propagande, qui sont tous aussi des champions, et j'emploie le mot à dessein, de la négation. Ce sont des gens qui effectivement refusent de mettre en avant le fait que leur combat aurait été un crime contre l'humanité, mais qui mettent en avant soit des erreurs, soit une espèce d'idéal politique djihadiste. Et ce procès-là serait impossible parce qu'on ne peut pas faire un procès pour l'histoire, dans la mesure où notre histoire n'est pas terminée. Juste d'un mot sur cette histoire du procès de Nuremberg. Moi, je suis journaliste, je raconte les audiences. Je m'appuie beaucoup sur l'expression d'un autre journaliste qui était lui devenu écrivain, qui s'appelle Joseph Kessel et qui avait écrit Les jugements derniers au moment des procès de Nuremberg. Lui, quand il écrit Les jugements derniers, la guerre contre les nazis est terminée, la victoire des alliés a été actée. Notre souci aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas dans des jugements derniers, la guerre est encore en cours.
Gilles Kepel, on est là au cœur de la grande difficulté à laquelle va devoir se confronter la justice, c'est celle de la preuve. Pour que ces revenants soient condamnés à hauteur de leur responsabilité, il va falloir faire un travail d'enquête et collecter un certain nombre de preuves. Et malheureusement, on a déjà vu dans l'histoire des personnes qui ont été relâchées précisément faute de preuves et qui ont ensuite commis des attentats. Je pense par exemple au meurtrier du prêtre de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, vous faisiez référence tout à l'heure. Est-ce que la justice française a les moyens de faire ce travail d'enquête nécessaire à la récolte de preuves?
En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, parce que si l'on veut combattre le djihadisme, il ne s'agit pas simplement de mettre des gens en prison pour les relâcher, mais d'identifier le type de crime qui a été commis, et en le mettant en lumière, en l'explicitant, de faire en sorte que celui-ci soit impossible. Puisque un certain nombre, et c'est toujours le cas dans beaucoup de prisons aujourd'hui, d'auteurs d'attentats djihadistes en restent particulièrement fiers. Ils considèrent que c'est eux qui sont la véritable norme. C'est eux qui détiennent la vérité. La justice n'est que la justice des infidèles, des kofars, comme ils le disent, des mécréants. Et là, il y a tout un travail qui s'adresse à l'ensemble de notre société. Un travail de conviction, un travail d'incrimination. Et ça, pour l'instant, effectivement, la justice n'a pas véritablement les moyens de le faire parce que elle est confrontée à un défi auquel la culture des magistrats ne les a pas du tout préparés, vous voyez. Et c'est pourquoi je pense qu'il est très important justement que les gens qui effectuent de la recherche, le travail de Mathieu Delahousse comme journaliste, le travail d'un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui en train de terminer des thèses sur ces questions, qui mettent en lien, par exemple, j'ai mes étudiants qui terminent une thèse remarquable en ce moment sur le lien entre les quartiers, les prisons et la Syrie, qui montrent comment s'articulent ces différentes zones. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas aujourd'hui enseignées dans les écoles de la magistrature. Et c'est extrêmement important que la justice soit capable de se ressourcer face à ce type de défi avec ce qui se passe, de mon point de vue, à l'université. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit à propos de l'administration de la preuve. Regardez ce qui s'est passé, alors c'est pas la justice française, la justice belge en l'occurrence, lors du procès Nemouche. Nemouche a fait jouer son droit au silence. Ce qui est assez effrayant quand on pense que l'individu en question, d'après les témoignages des journalistes français dont il a été le geôlier, il arrivait avec des tenailles pour leur tirer les ongles des pieds et des mains en leur demandant manucure ou pédicure. Enfin. Et pour les torturer, donc lui se réfugie dans son droit au silence, bien. Et néanmoins, lorsque Didier François raconte les scènes, Nemouche, impassible, tout d'un coup se met à sourire, se rappelant avec joie d'ailleurs, avec délectation, ce qu'il avait infligé. Et là, à partir de ce moment-là, on voit comment, face à la confrontation, et ça c'est évidemment quelque chose de très important, c'est l'effet de vérité dans le prétoire, face à la confrontation du témoignage de vérité de Didier François, celui qui se mure dans le silence, tout d'un coup laisse échapper, malgré lui, un sentiment qui a été dûment consigné par le juge belge en question.
Sauf que ça ne règle pas la question de la preuve.
Mathieu vous en avez une quand même. Vous en avez une parce que Didier François, lui, raconte ce qui s'est passé concrètement lorsque l'individu qu'il a reconnu l'a soumis à des sévices. Donc là, vous avez un élément de preuve qui est tout à fait réel.
Mathieu Delahousse, dans le cas où la justice a des difficultés à rassembler des preuves et qu'au fond, on parvient seulement à montrer qu'un individu est passé en Irak ou en Syrie, qu'il a appartenu à Daesh, mais qu'on n'a pas véritablement plus d'informations. C'est quoi la peine encourue ?
La peine encourue, dans un premier temps, et c'est la peine minimale, c'est une peine de 10 ans. C'est-à-dire que quand on est uniquement au stade du délit, et c'est le cas quand on a un départ en Syrie sans pouvoir prouver qu'on est combattant, on est dans une peine encourue de 10 ans. C'est le cas, par exemple, de tous ceux qui vont revenir et qui vont affirmer qu'ils étaient uniquement sur place boulangers ou restaurateurs, c'est ce qu'on entend assez souvent. Pour les combattants, en revanche, c'est la cour d'assises. C'est la cour d'assises avec la réclusion criminelle à perpétuité, avec les exactions possibles qui sont retenues dans l'incrimination, y compris ce qui a été commis sur place. Et par ailleurs, il faut souligner que, effectivement, les magistrats, dans un premier temps, ont pu être déconcertés par cette population qui arrive, qui effectivement ne reconnaît pas très souvent cette justice des koufars et qui mettent en avant la loi islamique. Mais peu à peu, et c'est le cas à l'école de la magistrature comme c'est le cas devant la cour d'assises de Paris, ces magistrats se forment et s'habituent face à un public qui peut mettre en avant soit un droit au silence, comme on l'a vu à Bruxelles, soit une forme de sympathie, soit une forme, encore une fois, et c'est celle-là la plus troublante, de négation pour des contingences qui ne sont pas forcément des contingences idéologiques. C'est-à-dire que beaucoup mettent en avant d'autres histoires qu'une idéologie pure pour expliquer leur départ en Syrie et leur installation sur place, ce sont des humains trop humains, comme disait l'autre, sur la façon de finalement suivre le voyage vers le Cham pour une histoire d'amour, pour une réalisation personnelle déçue sur le sol français, simplement une explication qui revient très souvent, notamment sur la question du voile islamique, de se dire qu'ils n'arrivent pas à vivre leur religion sur sur le sol français. Donc tous ces prétextes, toutes ces raisons, tous ces arguments sont donnés face aux magistrats qui peuvent avoir effectivement une oreille dans un premier temps bienveillante, mais qui souvent punissent, puisqu'aujourd'hui à la 16e chambre comme à la cour d'assises, les peines prononcées sont fortes.
En tout cas, vous dites 10 ans, ça veut dire que d'ici une décennie, on pourra avoir une vague de libération d'individus potentiellement dangereux. Est-ce que même c'est avant. Des gens qu'on peut espérer réinsérer au regard de leur profil, de leur parcours tel que vous les avez croisés l'un et l'autre, Gilles Kepel?
Alors, 10 ans déjà, c'est sans penser aux remises de peine.
Absolument.
Dont un certain nombre vont bénéficier. Et ça, ça a été un vrai problème parce que, justement, toute une génération de ceux qui sont aujourd'hui les chefs du djihadisme français ont passé du temps en prison où ils se sont aguerris, renforcés, etc. Et donc là, bien évidemment, la perspective que ça se reproduise est cauchemardesque, puisqu'on a des nombres beaucoup plus importants détentions. Alors, justement, le problème, c'est celui que vous évoquez, c'est celui de cette espèce de serpent de mer qu'on a appelé la déradicalisation, qui, disons-le, globalement, a complètement échoué. Entre autres choses, parce que, précisément, toute la dimension idéologique a été au départ déniée par les responsables de l'administration pénitentiaire, de la justice et autres, qui ont utilisé simplement des catégories psychologisantes. Ce sont des gens qui ont souffert, qui ont été malheureux, c'est la faute de la société française, etc. Et qui ont soumis les djihadistes emprisonnés à un certain nombre de tests, qui leur ont proposé des activités récréatives, etc. Comme si en fait, ils étaient des victimes qu'il fallait aider à revenir sur le droit chemin, alors que les djihadistes en question se sont largement moqués d'eux, ont utilisé toutes les opportunités pour faire du sport, pour renforcer leur idéologie en prison, etc. Donc là, on est face véritablement à un problème qui, pour l'instant, n'a pas été résolu. C'est ça qui, probablement, si vous voulez, pour revenir aux questions que vous me posiez tout à l'heure, fait problème pour la société française. Parce que, d'un côté, comme le dit Mathieu Delahousse, il est très important qu'il y ait une justice exemplaire et que cette justice donc s'impose à tous pour indiquer où est la norme, où est la vérité, où est l'erreur, où est le bien, où est le mal. Mais à partir du moment où elle n'arrive pas à analyser, à construire, à déconstruire l'idéologie des individus en question, finalement, elle apparaît comme une justice qui ne fait que condamner sans arriver à avoir une finalité dans la rédemption, si vous voulez, et dans la déradicalisation. Et au fond, son résultat, c'est que malgré elle renforce la détermination des individus dans l'incarcération. Et c'est là le problème principal. Et c'est pour ça que la question est difficile. Il ne s'agit pas de dire il faut qu'il rentre, il faut pas qu'il rentre. Il faut essayer de comprendre, bien sûr, que idéal, vous avez Mathieu Delahousse a raison, c'est il faut administrer cette justice exemplaire. Le problème, c'est quels sont les moyens que l'on va se donner pour l'administrer. Et ça, c'est un véritable défi dont je ne suis pas sûr qu'il soit véritablement pris en compte aujourd'hui par les autorités.
Alors, Mathieu Delahousse, d'abord, est-ce que vous êtes aussi pessimiste que Gilles Kepel s'agissant de la déradicalisation dont on a beaucoup parlé, mais où finalement on se dit qu'on n'a pas trouvé le bon modèle, si tant est qu'il existe un bon modèle, et du coup, comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que quand effectivement toutes ces jeunes filles et ces jeunes hommes vont sortir de prison, comment est-ce qu'on va organiser leur accompagnement, leur réinsertion peut-être, sachant que, en fait, on n'a pas réussi à les déradicaliser précisément.
Ouais. Mais le pessimisme, c'est un pessimisme d'expérience. Aujourd'hui, la France ne peut pas ne pas regarder son histoire récente, depuis 2015, et ne pas mettre en avant ce pessimisme d'expérience. D'abord, pour répondre sur la solution judiciaire, à mon avis, moi, ne passe que par le cas par cas. On ne peut pas considérer de la même façon des individus qui se sont radicalisés en 3 mois dans des cours de lycée en 2015 parce qu'il y avait une mode de Daesh avec des vidéos qui passaient sur les téléphones portables. Et moi, c'est ce qui m'a frappé face à cette chambre des coupables, c'est qu'effectivement, il y a eu une forme de mode adolescence, une espèce de fuite en avant comme dans d'autres périodes de l'histoire. Et il y a eu des radicalisations qui ont duré peu de temps avec des gens qui ne connaissaient absolument rien de l'islam, qui ne savaient rien de la guerre. Et c'est bien pour ça qu'ils en sont revenus si déçus avec des têtes d'enfants dépités pensant qu'effectivement ils allaient trouver sur place un décor de jeux vidéo alors qu'ils trouvaient des éclats de grenades qui venaient se loger dans leurs jambes d'enfants, eh bien évidemment la solution n'est pas de les traiter comme des frères ou des sœurs de famille de djihadistes qui se sont radicalisés depuis des années, qui sont enquistés dans une radicalisation volontairement guerrière et meurtrière. Et sur là, il faut avoir évidemment des peines très rapides. Mais simplement sur l'expérience, il y a des cas de déradicalisation de jeunes gens et notamment de jeunes femmes qui n'ont pas été couronnées de succès, on ne peut pas dire ça, mais en tout cas qui donnent de l'espoir à ceux qui les suivent. Et c'est le cas du secteur associatif qui travaille avec l'administration. Mais évidemment, à contrario, il y a l'exemple terrible de ce jeune homme de Trappes qui était passé devant cette 16e chambre, qui avait pleuré à l'audience en parlant de son frère mort en Syrie, qui avait évoqué son parcours de cuisinier, de restaurateur, et qui effectivement apparaissait dans un chemin, non pas de rédemption, mais dans un chemin peut-être de réinsertion voulue. Et quand il a été placé dans une maison d'arrêt à Osny, dans le Val d'Oise, au bout de quelques mois, il a décidé de s'en prendre à des gardiens pour les tuer. Il les a grièvement blessés, ce qui est déjà beaucoup. Et aujourd'hui, devant le juge, ce jeune homme, puisque c'est un jeune homme, c'est un tout jeune homme père de famille, son enfant a 3 ans, décrit la volonté de faire la guerre, la volonté de miser sur la patience, parce que c'est une notion qu'on oublie très souvent en termes de ces combattants djihadistes qui disent, nous, comme quand nous sommes en prison, nous avons le temps pour nous, nous avons le temps pour construire nos bataillons, construire notre stratégie, et nous vous frapperons, et des dizaines d'hommes attendent en prison. Et c'est lui qui le dit, hein, c'est pas un rapport sorti de on ne sait où. Donc ce pessimisme, il est enseigné par l'expérience. Encore une fois, l'autre écueil, c'est d'être uniquement dans une répression et dans une exclusion qui donne, si on peut prendre cette expression ici, du grain à moudre par rapport aux autres djihadistes potentiels, frères, sœurs, amis, qui prennent comme prétexte le fait d'avoir des jeunes gens mis en examen qui, à leurs yeux, seraient des martyrs judiciaires pour, à leur tour, passer à l'action. Et ça, c'est un grand danger, parce que c'est le danger du martyr, le danger de l'entraînement.
Il faut bien avoir une petite question. Justement, dans le langage de Daesh, le prisonnier est un demi-martyr. Et donc ça lui vaut une aura exceptionnelle, ça lui vaut des lettres d'admiratrice sans cesse, ça veut dire également un ensemble de mariages en prison, des parloirs au cours desquels seront engendrés de futurs combattants. Donc on a là toute une économie du djihadisme qui s'est mise en place derrière les murs des prisons, et qui, je crois, n'est pas encore véritablement prise en compte, si vous voulez. On attend désormais la publication des premiers travaux de fond là-dessus, et j'espère que ce sera quelque chose qui aura quand même une capacité de prise de conscience de l'administration, qui pour l'instant, finalement, c'est compréhensible, la situation de l'administration financière est difficile, doit gérer des contraintes énormes, mais là, on a affaire à un défi de société absolument fondamental. Et je ne suis pas sûr qu'il ait été relevé véritablement.
Et un défi aussi carcéral en particulier, Mathieu Delahousse, tous ces combattants qui reviennent, il va falloir, parce qu'on sait qu'évidemment la prison est un lieu de prosélytisme propice, donc il va falloir les isoler, qui plus est si on ne parvient pas en réalité à engager des processus de déradicalisation efficaces. Est-ce que nos prisons en France ont les moyens justement de placer à l'isolement tous ces revenants ?
C'est une question extrêmement compliquée. Je pense qu'effectivement aujourd'hui ce défi, qui est un défi de civilisation, n'est pas totalement pris en compte, parce qu'on n'a pas forcément, encore une fois, l'expérience face à une telle masse de djihadistes. Il faut, pour répondre à cette question, simplement se replacer 10 ans en arrière, quand on était responsable d'un service pénitentiaire, ou quand on était magistrat, ou simplement journaliste judiciaire. Les terroristes, c'était une petite exception. Il y avait 80 terroristes dans les prisons françaises. Il y avait à l'époque encore des Corses,
et une majorité
encore
de basque,
des Basques, etc. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on a 500 personnes qui sont dans les dossiers terroristes, plus 1500 détenus de droit commun, c'est-à-dire des dealers, des voleurs, même des violeurs d'ailleurs, qui se sont radicalisés.
On a les moyens de les passer en isolement. C'est pas une question de civilisation, c'est une question très pratique.
La seule question, c'est que sur le papier, effectivement, l'administration pénitentiaire a prévu des plans. Il y a des établissements à Vendin-le-Vieil, à Condé-sur-Sarthe, qui sont avec, effectivement, cet isolement, mais qui ne peut pas être appliqué à tout le monde, et qui, surtout, est très limité dans le temps. Donc, l'administration pénitentiaire, elle est prête matériellement. Ce qui n'est pas prêt aujourd'hui, c'est de gérer dans la durée, quand la problématique politique ou sécuritaire sera passée à autre chose, de gérer encore une fois ces détenus qui vont être en contact avec d'autres et qui pensent, et ça a été très bien souligné à l'instant par Gilles Kepel, qui ont le temps pour eux. C'est-à-dire qu'effectivement, eux, ils estiment que le prochain épisode marquant peut être dans 5 ans, peut être dans 10 ans. L'administration pénitentiaire, pour répondre précisément à la question, elle est prête sur les capacités d'accueil, elle est prête sur les établissements pouvant accueillir sécurité et isolement. Mmh. Elle a encore beaucoup plus de mal, et on l'a vu avec des programmes remarquables qui n'ont pas forcément été réappliqués, comme le programme RIVE qui était mené notamment sur Paris. Elle n'a pas forcément les moyens de pouvoir suivre individuellement tous ces individus pour pouvoir à la fois les protéger de la société et pour pouvoir suivre leur déradicalisation potentielle ou en tout cas leur évolution.
Gilles Kepel, il y a une catégorie de revenants dont on n'a pas encore parlé, ce sont les enfants. Beaucoup doivent revenir, devraient revenir. Certains sont déjà revenus. Il y a une note confidentielle du Quai d'Orsay qui nous dit que 84 enfants seraient déjà revenus. Comment est-ce qu'on peut organiser l'accueil de ces enfants? Dans quel état psychologique sont-ils? Comment sont-ils accompagnés aujourd'hui?
Ça dépend des enfants, parce que vous avez des enfants qui sont tout petits, qui sont enfants au sens latin, qui parlent à peine et qui ont été certainement, quand ils ont été exposés aux exactions de Daesh, qui ont subi ce traumatisme épouvantable, qui a reconstitué leur vision du monde. En revanche, vous avez de jeunes adolescents qui, eux, ont d'ores et déjà participé. Pour un certain nombre d'entre eux, on en a vu des vidéos, à des exécutions, à un certain nombre de choses, et les cas sont extrêmement différents. Alors, vous avez deux options. D'abord, est-ce qu'il reste dans l'environnement familial des éléments de famille d'accueil qui n'ont pas été contaminés par l'idéologie djihadiste? On pense aux grands-parents, par exemple, parce que ajouter au traumatisme de Daesh le traumatisme d'être mis dans un centre de semi-liberté et autres, évidemment, tout ça n'est pas particulièrement favorable comme avenir pour les enfants en question. Donc là aussi, on est face à un énorme problème, mais il faut bien voir que vous avez dans l'opinion publique un tel rejet de tous ceux qui sont revenus de Syrie que personne n'est prêt à approuver des mesures qui vont coûter extrêmement cher, qui vont être un traitement personnalisé et qui vont être considérés comme totalement indus, si vous voulez. Donc on est là pris et c'est, vous avez vu, enfin c'est devenu un enjeu politique, c'est devenu un élément du débat avec un certain nombre de partis d'opposition qui se sont opposés à toute mesure, a priori, dans ce sens-là.
Mathieu Delahousse, sur ces enfants en particulier, est-ce que ce sont les bombes à retardement, pour reprendre une formule assez dure, que l'on dit?
Encore une fois, il y a le cas par cas s'applique et doit s'appliquer brutalement par rapport aux âges. Il y a des enfants effectivement très jeunes, de moins de 5 ans, sur lesquels la question ne se pose pas. Ils pourront être, entre guillemets, récupérés. En revanche, tous les autres, et même les très jeunes enfants et adolescents, quand on se plonge dans le vécu de leurs parents, quand on se plonge dans les dossiers d'instruction aujourd'hui du pôle antiterroriste, il y a une réalité qui est d'une cruauté sans nom. Ce sont des enfants qui ont vécu à Raqqa, dans des rues où étaient précipités du haut des immeubles les homosexuels, où ils voyaient des prisonniers attachés à des grilles au rond-point pour montrer que l'État islamique menait sa loi. Ce sont des enfants qui ont vu effectivement leurs parents parfois mourir, et ce sont des jeunes... Vous savez, moi je termine le livre en racontant la scène de ces gens de Fleury-Mérogis à la maison d'arrêt des femmes qui s'occupent des femmes et aussi des jeunes femmes, et ils ont une expression pour dire que quelles que soient les culpabilités, parce que c'est pas leur métier, ce sont des gens qui sont littéralement fracassés. Et je raconte par ailleurs l'histoire de ce jeune converti qui était parti la Fleur au fusil en Syrie, pensant y trouver une jeunesse et s'y trouver un avenir, et qui, comme il n'est pas bon au combat, les gens de l'État islamique qui ne sont pas particulièrement angéliques lui disent « Tu vas rester à l'arrière-front, tu ne vas pas bouger », et il est chargé d'être fossoyeur, et pendant les quelques mois où il reste en Syrie, il va mettre en terre 120 personnes. Ce sont des jeunes fracassés, et la question de leur récupération se pose évidemment à de tel niveau qu'on ne peut pas les envisager au-delà du cas par cas.
Merci beaucoup Mathieu Delahousse. Je rappelle La Chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français, qui vient de paraître chez Fayard. Merci Gilles Kepel. Je rappelle vous concernant Sortir du chaos, c'était chez Gallimard.